Robert Blondin ici. Bienvenue à l'aventure. Cette fois-ci, l'aventure avec un ami. On ne se voit pas souvent, mais ça reste un ami, ça le restera probablement toujours pour moi. Il s'appelle Denis Mongeau. C'est le genre de gars qui est heureux sous l'eau ou sur l'eau. Quand il n'est pas sur l'eau, il est sous l'eau, mais regarde, il faut qu'il y ait de l'eau quelque part. Je l'ai connu comme ça. C'est un master diver, c'est-à-dire un maître de plongée. C'est un spécialiste de la voile également. Et on est installé tout près du lac Memphremagog, à la marina. De Magog. Denis, as-tu commencé tôt dans ta vie, la passion de l'eau?
Ça a été dans la vingtaine, j'ai découvert ça sur le tard un peu, pas tellement dans ma jeunesse, je venais pas d'un milieu familial tellement versé vers l'eau, puis je sais pas, c'était quelque part en dedans de moi, puis ça sortit un moment donné.
Ok, mais quand c'est sorti, là, ça c'est sous quelle forme? Par la plongée, par la voile?
Les deux presque en même temps, quelques années de différence, peut-être la plongée, puis une fois les deux pieds, les deux mains dans ça, j'en ai jamais ressorti. Là.
La plongée, ça fascine plein de gens. Il y en a qui en font et qui pensent que c'est un sport, moi je pense que ça n'en est peut-être pas un, c'est une pratique, un art, mais peut-être pas un sport, je ne sais pas ce que tu en penses.
Je peux démystifier ça, effectivement, la plongée, moi je considère pas ça comme un sport en tant que tel, c'est plus un loisir. Il n'y a pas vraiment de compétition, il n'y a pas de record à battre en plongée sous-marine, c'est l'endroit où on va relaxer, surtout admirer les fonds sous-marins qui sont c'est pas vraiment notre milieu, mais aujourd'hui, avec les techniques d'enseignement et l'équipement, c'est accessible à pas mal tout le monde.
Toi, quand tu plonges, est-ce que tu as encore le même plaisir que tu avais quand tu as commencé?
Oh oui, encore plus. Le plaisir, je vais dire que c'est transformé. Au début, il était pour moi me faire plaisir, mais au fil des années, avec l'enseignement de la plongée, la passion de l'eau dans l'eau s'est transformée à rendre les autres heureux, à transmettre ma passion aux autres.
Ça, c'est ton grand plaisir, le transmettre le savoir, mais surtout, je pense, le plaisir de plonger. Je t'ai vu faire plusieurs fois, c'est assez formidable de voir comment tu transmets ce plaisir-là. Juste avoir le regard des débutants avec toi sur l'eau, c'est extraordinaire.
Ça fait partie de la paye aussi, c'est de voir les gens qui un peu dépassent leurs limites quelque part, découvrent une nouvelle activité, sont fiers d'eux, puis d'avoir participé à ça, comme individu, c'est un privilège.
D'où vient ce plaisir de se retrouver sous l'eau?
Je te dirais, l'attrait principal que moi je savoure encore depuis le début, c'est la pesanteur. C'est de se retrouver en apesanteur, aucun mal de dos. On peut évoluer dans toutes les directions, en trois dimensions, chose qu'on ne peut pas faire sur Terre dans aucune activité. Donc ça, c'est le premier attrait qui est toujours existant. Puis l'autre, c'est le monde du silence. On n'entend que nos bulles, on n'entend rien d'autre. Donc c'est apaisant, c'est relaxant.
Moi, je t'ai vu enseigner la plongée à mes toutes petites filles et vraiment, tu les rassurais de façon extraordinaire. On a encore des photos en famille de ça. C'était un moment exceptionnel pour elles.
Mon boulot, je dis toujours qu'il est 50% technique, 50% psychologique quelque part. Il faut atteindre les gens, il faut se mettre à leur place, voir où est-ce que ça peut accrocher, voir comment ils évoluent dans ça. C'est le secret, là. La plongée, c'est autant une question technique de connaissance et aussi d'attitude vis-à-vis l'activité. Il faut faire la plongée pour les bonnes raisons. Puis pour moi, c'est important, lorsque j'enseigne, de transmettre la bonne attitude vis-à-vis cette activité-là.
Comment tu fais pour aider les débutants à vaincre vraiment leur peur?
c'est d'être calme moi-même. D'être calme. Puis ça se transmet aux autres personnes, tout simplement. C'est les approcher, se mettre à leur niveau, voir où est-ce que ça peut accrocher, leur suggérer des affaires, pas être trop directif, les amener où est-ce que je veux, mais que ça soit quelque part eux qui trouvent comme, le chemin pour arriver à ce que je veux en plongée.
Même Frère Magog, c'est un peu répétitif. Donc, il y a encore du plaisir pour toi à plonger dans le même Frère Magog?
Le même Frère Magog, il y a deux attraits principaux, je pourrais dire. Il y a des belles formations rocheuses. C'est un lac à certains endroits. Il y a des belles falaises assez vertigineuses qui partent de à peu près 35 pieds jusqu'à une centaine de pieds. Puis aussi la vie sous-marine. Il y a à certains endroits, il y a beaucoup de poissons qu'on peut nager avec, qu'on peut observer à faible profondeur, puis en grande quantité aussi. Il y a les achigans, il y a différentes sortes de crapets, la perche chaude, le brochet, le poisson-chat, la barbotte. Donc, c'est les principales espèces là, qu'on voit. Il y a beaucoup de... Il y a la pêche à la truite aussi. La truite se tient plus en profondeur. C'est un peu moins accessible pour nous, plongeurs, pour voir les truites.
Jacques Boisvert, c'est une institution au lac Memphremagog. Il plongeait presque tous les jours, ouais. 365 jours par année. Ouais. Parle-moi un peu de ce gars-là comme passion de plonger, c'était quelque chose.
Je pense que ça faisait partie de sa vie. Il fallait qu'il soit dans l'eau à chaque jour. Oui, c'est un passionné à sa façon. Lui, il aimait ça. Lui, c'était M. Artefact. Il cherchait tout ce qu'il pouvait trouver d'ancien ou qui pouvait contribuer à l'histoire du Memphremagog. Donc, ça a été un ambassadeur, pas seulement de la plongée, mais je crois aussi de la région et du lac Memphremagog. Il a fait beaucoup pour la région ici. Là. Mais... Ah non, j'ai des belles histoires là-dessus, sur le Memphré, des gens qui m'ont raconté qu'ils l'ont vu. Il paraîtrait que ce serait une espèce de grosse salamandre qui aurait survécu, qui aurait passé au travers des âges, des périodes glaciaires. Ils auraient même retrouvé des fossiles en Sibérie, ce qui est à la même latitude que nous. Donc, l'espèce a déjà existé. Le nom latin existe aussi. Ça a été corroboré par quelques personnes, dont scientifiques. Mais j'attends de voir l'espèce en question pour...
Le temps que j'étais beaucoup sur le lac ici, on parlait aussi d'un autre phénomène qui était des vieux billots qui étaient calés au fond du lac et qui remontaient avec un peu d'oxygène ou de méthane qui se dégageait entre l'écorce et l'arbre. Puis quand ça apparaissait en haut, ça avait l'air des monstres.
Je sais pas si c'était des billots, mais à quelques occasions, j'ai des gens qui m'appellent, même à toute heure du jour et de la nuit, qui avaient vu le monstre. Puis d'aller le voir. Bio, peut-être. Vague, peut-être aussi. Je ne pourrais pas le dire à ce niveau-là.
Est-ce que tu sais pourquoi on écrit Memphré, le nom du monstre, au féminin?
Ben, peut-être que c'est une femelle.
Non, c'est moi qui vais te le raconter.
Ah oh, oui, bon, vas-y.
Il y avait eu, il y a des années de ça, un concours dans les écoles de la région. J'habitais la région.
Ouais.
Et. Ma fille, ma plus jeune fille, Julie, avait envoyé un dessin et avait fait le monstre, mais avec un soutien-gorge.
Okay.
Et elle avait gagné le premier prix. Et depuis ce temps-là, ils ont mis un E à Memphré.
Ah oh, ouais.
Est-ce que tu as eu l'occasion de plonger ailleurs dans le monde que les petites Antilles?
Oui, j'ai passé un certain temps dans les Antilles, à bourlinguer sur le voilier, dans les petites Antilles, entre autres. Oui, il y a eu des belles plongées avec ma conjointe surtout. Les endroits où est-ce que, à partir du voilier, que d'autres personnes ne peuvent pas nécessairement aller, faire des plongées d'exploration, c'est sublime. C'est des grands espaces, c'est des coraux de toutes sortes de couleurs, c'est des poissons à profusion. C'est une espèce de liberté qu'on retrouve dans ce milieu-là.
Ça t'est arrivé de vivre des situations dangereuses, difficiles?
Non, pas très dangereuses. Des situations qui pouvaient peut-être dégénérer, mais qui sont sous contrôle quand même. C'est surtout avec d'autres personnes qui sont moins à l'aise, puis qu'il faut assurer comme moniteur, mais il faut être vigilant à tout instant. Non, des grosses pannes d'air, des trucs comme ça, non, c'est jamais vraiment arrivé.
Est-ce que tu as eu l'occasion de plonger ailleurs dans le monde que les petites Antilles?
Bon, peut-être un petit peu l'Afrique, un petit peu le Brésil, mais principalement, là, c'est l'Antille. C'est les Antilles, oui.
Est-ce qu'il y a encore des endroits de rêve pour toi où tu aimerais vraiment là, aller plonger?
Oui, l'Indonésie, c'est quelque chose qui m'attire. Oui, j'ai eu quelques copains qui ont travaillé là-bas comme instructeurs. Puis, c'est très joli, c'est pas beaucoup exploité. Il y a des beaux endroits à voir là-bas. C'est très riche. L'océan Indien, Pacifique, il y a beaucoup plus d'espèces qu'ici.
Denis, est-ce que tout le monde, tous les êtres humains peuvent vraiment faire de la plongée sous-marine, aller sous l'eau?
Ça prend absolument un cours pour devenir plongeur. C'est un cours qui est autant théorique que pratique. Il y a une partie théorique, il y a des connaissances à acquérir et une partie pratique. Sous la forme que je donne ça ici, moi je le donne en milieu naturel ou même frémagogue. On peut compter 4 jours, 4 jours pleins. Puis tout est fait dans ça, théorie et pratique. Puis au bout de la ligne, bien, les gens obtiennent leur certificat de plongeur autonome, peuvent plonger avec un plongeur de leur niveau après le cours.
Est-ce que c'est dispendieux?
Le cours, non, les prix n'ont pas beaucoup évolué au fil des années. Pour 495, taxes inclus, équipement inclus, manuel inclus, tout inclus,
On fait le
on
cours.
obtient, on fait le cours, oui. La prémisse de base, c'est le médical. Si le médecin, si on a l'approbation du médecin, puis les gens sont intéressés, sans suivre le cours, ils peuvent faire une initiation. Lors de l'initiation, on peut s'arrêter à n'importe quel moment. Donc, si la personne, c'est pas pour elle, on arrête, c'est tout, puis l'expérience est terminée là. Mais je crois que si le médecin est d'accord, on doit essayer. Si la personne est intéressée, on doit essayer, oui.
S'il y en a que tu vois encore, qui te racontent ce qu'ils font en plongée un peu partout dans le monde, ils sont restés passionnés.
J'ai formé beaucoup de personnes en plongée. C'est surtout des gens qui ont peut-être évolué dans d'autres métiers reliés à ça. J'ai des gens qui sont venus chercher leur cours de plongée puis ont pris la direction de la biologie, sont devenus biologistes. J'ai d'autres personnes aussi qui ont pris le chemin du plongeur commercial, qui font des travaux sous-marins aujourd'hui. Puis lorsque je les revois, bien, ils me racontent leur expérience qui est tout à fait différente de la plongée récréative. Puis j'apprends d'eux maintenant, chacun dans leur domaine.
Est-ce qu'il y a des moments dont tu te souviens qui ont été particulièrement émouvants à faire ça?
Oui, c'est lorsqu'une personne était très motivée à faire la plongée, mais avait des bonnes restrictions. Il y avait le physique, il y avait l'anxiété. Puis lorsque la personne a sorti de l'eau après la plongée, c'était un immense cadeau que j'avais fait, tomber dans mes bras en pleurant avec des merci et des merci. Ça m'a ému beaucoup. Ça, c'est la chose qui m'a le plus ému.
L'aventure aujourd'hui de Denis Mongeau, plongeur et navigateur à voile. Parle-moi un petit peu de la voile, on n'a pas parlé beaucoup. Je t'ai connu, tu avais un bateau à voile. Tu fais encore de la voile, hein?
Surtout dans l'enseignement, mais c'est une activité que je pratique toujours. Hein. C'est une forme de stage de voile, comme instructeur de voile. J'apprends aux gens à faire de la voile sur des quillards d'à peu près 30-35 pieds. J'initie les gens au plaisir de la voile et même des cours plus avancés de perfectionnement à la voile. Surtout sur le fleuve Saint-Laurent, dans le golfe Saint-Laurent. Même à l'Atlantique, en Nouvelle-Écosse, c'est un très beau terrain de jeu aussi, en passant. La voile, ben, encore là, comme la plongée, ça faisait partie de moi, je sais pas. C'était là, demandait juste à s'exprimer, puis je vais te dire, évoluer dans ça, ça a été facile pour moi. Oui, j'ai suivi des cours, j'ai quand même suivi le cheminement habituel, mais c'était facile. Puis là, je suis rendu à l'étape que je veux transmettre ce que j'ai acquis, mes expériences, mon savoir, pour en faire profiter aux autres.
C'est quoi le vrai plaisir de la voile? Si c'est juste promener sur l'eau, il y a des bateaux moteurs, il y a tout ce qu'il faut. Pourquoi la voile, c'est si particulier, c'est si près de l'être humain?
Ben, tu sais, Robert, t'en as fait de la voile, puis tu viens juste de parler de bateau moteur. Quand tu éteins le moteur du voilier, puis tu fonctionnes à voile, c'est la moitié du plaisir de plus avoir de bruit, d'entendre l'eau couler sur le long de la coque, puis de sentir le bateau évoluer avec les forces de la nature, avec le vent, et surtout par la connaissance qu'on a des différentes manœuvres sur le voilier, de faire bien fonctionner le bateau, c'est un plaisir, juste ça, c'est un plaisir qu'on ressent.
Je sais que chez bateaux moteurs, il peut y avoir un certain snobisme d'avoir un bateau plus gros que le voisin. Là, c'est un petit peu les voisins gonflables. Ça existe dans ce milieu-là. À voile aussi, jusqu'à un certain point. Mais tu as commencé sur quel type de bateau, toi?
J'ai commencé à la base sur le petit Laser 1. J'ai suivi mes cours. J'ai eu beaucoup de plaisir. Puis on apprend beaucoup. Parce que, tu sais, un laser, si on manque notre coup, qu'est-ce qui arrive? On chavire. Donc, pour ne pas chavirer, il faut apprendre à faire de la voile, et assez rapidement d'ailleurs.
Ouais.
Premier quillard est venu quelques années après. Après ça, j'ai eu un catamaran sportif. J'ai eu beaucoup de plaisir avec ça. Ça, c'est du sport. Après ça, ben, c'est beau apprendre à faire de la voile, faire des ronds dans l'eau. Mais j'avais envie d'aller voir plus loin. Puis pour aller voir plus loin, ben, ça prend un bateau habitable, un quillard qu'on appelle. Puis c'est venu quelques années après là, le goût d'aller voir plus loin. Quillard, c'est... C'est un peu la maison que tu amènes avec toi. Tu t'explores les différents endroits, mais tu as toujours ton chez-toi avec toi que tu amènes. Donc, tu changes de place avec tes affaires.
Brel disait que c'était être nomade sédentaire en même temps.
Oui, exactement. On retrouve... On peut naviguer, confronter les éléments, arriver dans des pays exotiques, mais quand on rentre à l'intérieur de notre bateau, ben, c'est notre cocon de chez nous, familial, on retrouve nos choses, on est chez soi.
Quillard habitable, avec l'équipement de plongée à bord, évidemment.
Ben oui, c'est sûr.
Tu as plongé sous la glace aussi, et tu aimes ça.
Ah oui, ça, c'est une autre activité qui se fait très bien. Les gens, à chaque fois que je parle de plongée sous glace, les gens, les cheveux leur dressent sur la tête. C'est impossible, tu vas mourir. Mais c'est une des plongées les plus sécuritaires. Parce que il y a des normes. Oh, il y a des choses à respecter, on est attaché, tout est vérifié, les gens ont un certain niveau, ils savent dans quoi ils s'embarquent, puis je suis très mère poule aussi, donc ça risque rien.
De ton enfance, ça s'est passé où?
Ça s'est passé à Sherbrooke, l'été sur le terrain de baseball, l'hiver dans les arénas de hockey et sur les bancs de la petite école, donc c'était loin de la plongée et de la voile.
T'étais un bon élève scolaire?
Oui. Mais je pouvais perdre un peu le fil parce que je partais dans mes rêveries. Peut-être qu'il y avait la voile puis la plongée qui poussait derrière. Mais non, généralement, non, ça allait bien. Ça allait bien à l'école.
Parmi nombreuses?
Quatre, dont je suis le plus vieux. Quatre enfants. Deux gars, deux filles. Et on est tous différents. Il n'y en a pas un qui fait de la voile. Il n'y en a pas un qui fait de la plongée. Il y a une sœur enseignante. Un frère qui est dans le gros business. Puis une sœur aussi qui est comptable dans une usine. Donc, on est tous différents.
Mais de quel milieu, à ce moment-là, sociaux vous étiez?
Oh, c'est bien normal. Ma mère a commencé comme enseignante chez les sœurs. Mon père est pompier professionnel à la ville de Sherbrooke. C'est des gens qui ont travaillé très fort dans la vie. Ils venaient eux-mêmes d'une famille très, très normale. Donc, on a eu le support de nos parents dans qu'est-ce qu'on voulait entreprendre. Puis, je pense que c'était une bonne motivation pour faire ce que je fais.
T'es arrivé à l'adolescence, avais-tu déjà le goût d'étudier, d'avoir un certain métier, une profession?
Non, à ce niveau-là, j'étais un peu perdu comme bien des jeunes de cet âge-là. La pression familiale a fait que j'ai fait mes études en administration, mais rendu même à l'université. Mais là, déjà, ça commençait à sortir parce que mes examens à l'université, je les préparais avec le livre de navigation à côté de moi. Donc, ça faisait pas les meilleures préparations d'examen. Donc, déjà là, j'avais la passion de la navigation qui commençait à point
T'en as pas fait au départ un métier, tu disais, t'as étudié en administration, t'as été en affaires avant d'être un navigateur et un plongeur professionnel.
oui, effectivement. Après l'université, j'ai travaillé dans les bureaux de comptable. Après ça, je suis parti en affaires. J'ai eu des commerces.
Comme quoi?
Un magasin de peinture qui est très loin de ça. Donc, oui, il fallait gagner sa vie. J'étais même passionné à ce moment-là de monter un commerce, puis d'arriver jusqu'au bout. Je me suis toujours rendu au bout des choses que j'entreprenais, que ce soit n'importe quoi. C'était important pour moi de terminer les choses. Puis ça, je l'ai terminé aussi. Puis le but à la fin, c'était de m'acheter un voilier puis partir. Comme bien des gens, mais j'ai vraiment tenu fort à ça. Puis même si le commerce, à la fin, j'étais pas tellement motivé, ben je savais au bout j'étais pour partir à la voile.
Et un jour de vendre ton commerce de peinture pour faire autre chose, et qu'est-ce que tu as fait?
La voile était toujours présente, mais c'est de suivre ses tripes, puis mes tripes n'étaient plus là. Je peux pas concevoir de continuer à faire quelque chose que on ressent plus. Oui, pour certains besoins, on peut le faire, mais faut vite changer, faut vite trouver autre chose, parce que sinon, moi j'y crois, c'est les maladies qui nous guettent. Puis, faut faire sortir ce qu'on a dans nous.
L'amitié, ça avait beaucoup d'importance pour toi? Tu avais des copains, des amis?
Oui, surtout dans les sports, c'était les sports d'équipe. On parle baseball, hockey, volleyball. C'est des sports d'équipe, donc faut fonctionner en équipe. Oui, l'amitié faisait partie de ça. Pour que le groupe fonctionne, faut que chacun connaisse sa place, puis s'entraide, sinon on s'en va nulle part.
Es-tu pour trouver des petites blondes aussi à cet âge-là?
Non, ça c'est quand on est bon dans l'espoir. Ça aide
Ah,
pas à
je suis pas
trouver des
bon.
petites filles. Pour ça, je me forçais dans l'espoir pour être bon. Oui, non, l'espoir ou n'importe quel autre.
Parle-moi un peu de tes premiers amours. Il fallait bien y arriver. T'as une réputation, t'es reconnu comme un très bel homme. Ça s'est passé facilement pour toi ou c'est différent pour toi comme pour les autres?
Bon, ça, je veux
Je le
pas.
savais, mais c'est pas grave.
Bon, ça, OK. On va laisser les autres juger de
Non,
ça.
mais je te le dis, moi.
Bon, c'était par les sports. Oui, je performais dans les sports, puis là, oups, ça faisait tourner des têtes. Puis, donc, étant un gars très gêné, ben, je laissais venir, puis là, ben, je me dégênais avec le temps. Puis, après ça, ben, ça suit son cours.
Et quand est-ce que les vrais amours ou le vrai amour est arrivé? T'as eu comme d'autres, j'imagine que tu t'es lancé à fond dans des choses qui n'ont pas toujours bien marché, j'imagine.
Oui, ben les amours, ça va et vient. Le grand amour, ça a été avant la vingtaine, ça a duré un petit bout de temps. Mais à un moment donné, les chemins se séparent, puis c'est bien comme ça, parce que quand on est jeune, on ne sait pas tellement ce qu'on veut encore dans la vie, puis quand on accroche à quelque chose, ça ne veut pas dire que le conjoint du moment, c'est son trip aussi, puis c'est normal que les chemins se séparent, puis on s'en va ailleurs. Puis bon, j'ai fait des gaffes. Oui, j'ai fait des gaffes. Ben, c'est sûr. Comme, ben, pression familiale d'aller étudier dans certains domaines, que je me suis frappé le nez parce que quand tu t'étudies dans un certain niveau, faut que tu sois passionné dans ça, sinon tu réussis pas. Et j'ai pas réussi dans ça. Donc,
On parle de quoi, là?
bon, on parle des examens de comptable. C'est un des examens qui de corporation professionnelle qui est un des plus difficiles à réussir. Puis oui, je me suis planté à quelques occasions. Puis c'est ça. Mais sur le moment, c'est très triste. Tu prends ça comme un gros échec. Mais tu vois que plusieurs années après, ben, l'échec n'est pas tellement un échec. Il faut savoir décoder ça aussi.
Échec amoureux, une grosse peine d'amour.
Oui, ma première blonde sérieuse, grosse peine d'amour. Tu as l'impression que il n'y a plus rien dans la vie. Tu fonctionnes sur le pilote automatique. Même un découragement, c'est une mini-dépression qui est venue un an après. Puis je pense que c'est important de toucher le fond à ce niveau-là. Parce qu'après ça, on se relève, on fait le ménage, puis on se relève, puis ça fait. On permet à d'autres choses de se présenter. Puis ouais, il faut laisser aller les choses, pas combattre.
C'est quoi une relation amoureuse réussie pour toi, là? En dehors des clichés qu'on connaît tous, là, mais la
OK. Je
réalité,
ne
là.
sais pas si la complicité, c'est un cliché, mais je crois que c'est ça qui est important dans les relations. Je crois beaucoup dans une relation que chaque personne ne doit pas perdre leur individualité. Puis que l'autre personne est là justement pour la faire grandir dans ça, puis s'entraider. Je crois que ça forge des liens qui on peut pas défaire après.
La compagne de ta vie actuellement, Hélène, vous êtes sur deux paliers différents. Votre lingot de voile à l'avant des bateaux moteurs. Comment ça s'est passé avec Hélène, que je connais bien, mais qui est une belle histoire d'amour entre vous deux?
Oui, ça a débuté quand je partais à la voile, donc rien faisait que on était pour s'unir ensemble. Je crois que il y a des atomes crochus, on s'est rencontrés quelque part, puis même si je partais, ben, on s'est réunis, puis ça fait quoi, 21 ans de ça? Puis on est toujours ensemble. Je lui ai fait découvrir des choses.
Tu m'as pas expliqué comment ça s'est passé.
Ah, tu veux absolument raconter ça. Bon. OK. Bon. On se rencontre dans une soirée à la marina. C'est une fête, soirée de fête. Hélène est invitée parce qu'elle a des connaissances ici. Il y a des gens qui nous mettent en contact parce qu'ils voient peut-être un avenir entre nous deux. Donc, on commence à jaser dans la soirée, tout ça. Et mon bateau est à la marina. Mon bateau est à la marina. Bon, mais est-ce que je peux voir ton bateau? Je dis oui. Bon, ben, il est au bout du quai là-bas. Bon, ben, comment qu'on fait pour le reconnaître? Ben, tu te lèves la tête, puis tu regardes la hauteur des mâts, puis tu prends le mât qui est le plus élevé. Donc là, je pensais très fin. Ah, drôle. Mais une chance que je ne l'ai pas rencontré dans les Antilles, parce que dans les Antilles, c'est le contraire. Le mât des autres bateaux, les bateaux sont immenses, donc ça aurait été le plus petit mât. Donc, on a bien ri là-dessus, puis c'est comme ça qu'on s'est
Tout de
rencontrés.
suite, premier soir sur le bateau.
Suite, premier soir sur le bateau. Ouais, une visite du bateau.
Thank you. On va parler de voile un peu, Denis Mongeau. Même Frémagog, on en fait de la voile sur Même Frémagog. C'est pas d'une complexité totale, mais tu as été plus loin et tu as parfois fait des traversées qui étaient beaucoup plus périlleuses, disons.
Les premières armes, c'était au Même Frémagog, puis mon désir de découvrir plus loin s'est concrétisé. Oui, à un moment donné, j'ai pris la mer. Je pourrais te dire que j'ai osé un peu. Aujourd'hui, je ne ferais pas la même chose. Mais, période de ta vie, tu as envie de, je sais pas, de te prouver des choses. J'étais dans la trentaine. Toujours vécu dans la famille, un bon petit gars, jamais. Puis, fallait que je découvre autre chose. Puis, je suis parti à la voile et j'ai pris la mer en solitaire.
Où? Tu pars d'où?
Je pars du lac Champlain. Descends jusqu'à New York. À ce moment-là, je suis accompagné. New York, côte est américaine, ça va bien. La baie de Chesapeake, après ça, Norfolk et la Caroline du Nord. À ce moment-là, je me trouve seul sur le voilier. C'était prévu d'avance. Et mon but, c'est d'atteindre Saint-Martin. Bon. Là, on fait quoi? On longe les côtes américaines, on fait la ronde de l'Est, ou on y va pour la route directe. La route directe au mois de novembre, entre la fin de la saison des ouragans et les tempêtes hivernales, c'est, je prévois avec mon bateau la vitesse et la route à faire, à peu près un 12 jours de voile, en plein Atlantique, parce qu'on navigue au large. Là, carrément, la chienne me poigne. Sur papier, c'est facile à faire, mais quand vient le temps de larguer les amarres, tous mes avoirs sont dans ça. Je suis seul à bord, point assurable quand je suis seul. Tout le travail de ma vie est là. En plein Atlantique seul, oui, avec l'expérience, mais j'aurais pu en avoir plus. Quand vient le temps de larguer les amarres, la chienne me pogne. Mais il est trop tard, je décolle. Je décide de décoller. En plus, des gens viennent me dire qu'ils annoncent une dépression 3 jours, dans 3 jours au sud-ouest des Bermudes. La chienne me poigne encore plus. Mais je décide de partir quand même. Je me suis dit, j'ai le bateau, je sais quoi faire, je décolle. Je décolle et je me suis fait ramasser au sud-ouest des Bermudes avec, on ne dirait pas une tempête, mais un bon coup de vent. Un bon coup de vent, ça prend d'autres proportions lorsque tu es seul à bord. À 800 km des côtes les plus proches, en pleine nuit, les déferlantes qui cassent sur le bateau, le pilote automatique qui ne veut plus barrer, tu te sens bien seul. Fait que les forces t'épuisent à l'intérieur, puis on passe au travers. Le bateau est bon, on passe au travers. Donc, ça a été un épisode de ma vie lors de la traversée qui
Avec des découragements.
est. Non, jamais. Jamais lors des coups de vent, parce que dans la vie, je suis un peu fonceur. Je me bats. Je me laisse pas faire. Je me bats. Mais la mer a plein de secrets. La mer, c'est la vie. La mer, c'est l'univers. C'est tout. La mer est venue me chercher d'une autre façon. C'est quelques jours après, je suis tombé dans la pétole, ce qu'on appelle. Aucun vent. Mais là, il n'y a rien à combattre. Quand il n'y a rien à combattre, là, le cerveau commence à tourner. Okay? Le mental commence à inventer des choses. Après le calme, c'est la tempête, c'est un ouragan tardif qui arrive. Donc là, j'essaie de rationaliser, non, ça se peut pas, mais j'ai rien à combattre. Donc là est venu le moment de découragement. Là, j'ai atteint le fond du baril. Là, je me suis mis à pleurer dans le fond du cockpit. Il me restait encore 4-5 jours de voile avant d'arriver à Saint-Martin. Qu'est-ce que je vais faire si j'ai pas de vent? Est-ce qu'une tempête? Qu'est-ce qui va venir me chercher? Là, je me suis mis à pleurer comme un enfant dans le cockpit et je ne te mens pas. 10 minutes après que j'ai atteint le fond du baril, le vent est revenu. Dans le bon sens, régulier, j'ai pu faire ma route jusqu'à Saint-Martin. Bon, appelle ça Dieu, appelle ça les forces de l'univers. Oui, peut-être qu'il y a des forces qui sont au-dessus de nous autres, qu'on ne peut pas comprendre, puis qu'on ne doit peut-être pas comprendre. Comme humain, qu'on agisse sur qu'est-ce qu'on peut agir dans la vie, c'est déjà suffisant. Puis de juste de décoder ce qui nous est présenté, puis ça nous montre le chemin. La vie m'a montré qu'il n'y a pas juste le combat dans la vie, il y a la patience, le respect des éléments et surtout garder les yeux ouverts. On a plein de messages en entour de nous autres.
L'autre, tu penses, c'est l'abandon. Il faut parfois s'abandonner. On ne peut pas toujours tout contrôler.
Il y a des choses qu'on peut contrôler, que moi, je pense, des choses de tous les jours, mais il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Bien, durant ce temps-là, au lieu de combattre, mais c'est le lâcher prise. Mais ça, l'océan, la mer, me l'a appris.
Est-ce que tu l'as assez appris pour l'appliquer dans ta vie quotidienne?
Non, pas assez. Vous savez, c'est comme l'évolution, c'est comme une spirale montante. On revisite toujours les choses qui viennent nous tester. Puis oui, on trébuche toujours, mais c'est ça la vie d'humain.
Restes-tu des rêves à réaliser?
Oui, à la voile, j'aimerais bien aller visiter les pays nordiques. Le froid, l'immensité, les coins perdus, les gens surtout qui habitent là, qui sont sûrement fantastiques, parce qu'ils ont dû s'adapter à ces milieux-là. Ces coins-là m'attirent, le Groenland. L'Islande, Norvège et au-delà aussi. C'est tous des coins qui m'intéressent un jour.
Côté sud des palmiers et la petite baie de sable, ça tu l'as connu en
Et
masse.
ça, c'est connu, c'est bien, c'est très agréable, mais pour moi, c'est du connu. Oui, j'y retournerai quand même volontiers, mais pas comme objectif.
Est-ce qu'il te reste des craintes de certains aspects de la vie?
Non, c'est des nouvelles qui s'installent. C'est l'âge qui commence à s'accumuler. Plus qu'on avance en âge, je crois qu'on sent comme une urgence de faire ce qu'on a à faire. Il y a des choses qui deviennent moins importantes, puis il y a des choses qu'on entre dans nous que faut vraiment exprimer parce que on passe au côté des choses, puis je ressens l'urgence. On peut traduire ça comme une espèce de crainte, oui, mais ça s'installe, puis je vais vivre plus de choses avant d'être trop vieux ou de mourir.
Que tu crains la maladie, le vieillissement qui va t'empêcher de faire des choses?
Peut-être, oui, ou des accidents. On voit que le corps, on ne rajeunit pas, mais avant qu'on soit moins apte à faire les choses, ouais, il y a une urgence à ce niveau-là.
Des choses que tu ne ferais plus. Tu as compris que ça, c'était pas la bonne voie pour toi.
Oui, les traversées en solitaire dans des endroits qui peuvent être potentiellement dangereuses, oui. Donc, oui, à certains moments dans ma vie, je pouvais seul, pas avec des gens, faire des choses, oser risquer peut-être ma vie dans certaines activités inconsciemment. Aujourd'hui, je suis plus posé et oui, je réfléchis un petit peu plus avant de faire les choses.
T'as pas d'enfant?
Ben, les enfants, oui, j'aime les enfants, mais peut-être pas dans cette vie-ci. Non, j'ai trop de choses à faire. Non, ça n'a pas sa place dans ma vie, même si j'aime les enfants, parce que j'enseigne, je travaille avec les enfants, j'adore les enfants, mais le rythme de vie que j'ai eu et j'ai toujours, j'aurais, pense, pas pu faire une bonne job de père. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre.
On parle-tu d'écologie un peu? Plongée, voile, ça te mettrait près de la nature. Est-ce que tu es conscient de la dégénération, si on veut, de notre Terre?
Oui, on le voit. Ben moi, l'écologie, tous les animaux que je rencontre sous l'eau, sur l'eau, c'est comme des amis. Les poissons, on dirait qu'on peut voir leur âme. Ils ont leur vie. Ils s'intéressent, oui ou non, à nous. Tu regardes. Oui, un poisson, tu le regardes dans les yeux, tu vois qu'il y a une vie derrière. Puis je respecte beaucoup ça, puis je me nourris de ça. De même que des gens vont regarder un chien dans les yeux, vont, ah, ce chien-là, il a une âme. Les chats aussi, les animaux de la nature que je rencontre dans l'eau aussi, c'est la même chose.
Le réchauffement de la planète, est-ce que tu crains ce qui se passe?
Certains endroits où est-ce que je voyage, où on peut voir que les coraux, ouais, s'abîment tranquillement. Il y a des endroits que j'ai retourné plonger, comme à Cuba, que j'avais fait plusieurs années avant, j'y retourne. Il y a moins de poissons. Je plonge beaucoup, je travaille au Roatan. J'ai été plusieurs années. Puis on voit aussi une différence à ce niveau-là. Parfois, lorsque l'eau est trop chaude, les coraux blanchissent. Oui, ils récupèrent, mais ça arrive plus fréquemment qu'avant.
Est-ce que tu as parfois des tristesses que tu contrôles difficilement, disons?
Oh, grande question. Oui, au niveau des gens, peut-être rendu des gens tristes un peu par certaines actions. On veut toujours se reprendre, mais on se dit, ben, c'était là pour ça. La personne, on ne sait pas ce qu'elle a appris dans ça. J'ai peut-être quelque chose à apprendre aussi. C'est tristesse ou remords, des choses à refaire. Oui, mais la vie est comme ça. Si on ne fait pas d'erreur dans la vie, je crois qu'on ne peut pas évoluer. Les personnes parfaites, là, j'en connais pas. Moi, je suis pas parfait. On trébuche, on se relève. Je pense que l'important, c'est d'apprendre de nos tristesses, du fait qu'on trébuche. Si on n'apprend pas, je pense que ça ne sert à rien. Oui, il y a un remords, mais je pense que si on apprend, on n'a pas de remords à avoir.
Tu prends quel moyen pour te relever?
Je lèche mes plaies, hein? OK. Je prends soin de moi. Et après, un petit débriefing intérieur, ça peut être bon. Tout de suite réagir, se relever, repartir, je pense pas que c'est une bonne affaire. Je l'ai pas fait. Je soigne mes plaies. Je regarde ce qui n'a pas bien été. Peut-être que le morceau était trop gros, ce que je voulais prendre. Je regarde ce qui a été bon, ce qui a été moins bon. Puis, je vise d'une autre façon durant ce temps-là, puis ça fonctionne.
Un gars de nature comme toi, est-ce que c'est porté aussi vers la culture?
Oui, parce que ça se rejoint. Puis, le dénominateur commun entre la nature et la culture, c'est la beauté. Il y a de la beauté dans la nature, il y a de la beauté dans la culture. Prends la musique, par exemple. Si tu me demandes, aimes-tu un style en particulier? Non. J'aime la bonne musique. Ça peut être un rap, ça peut être un classique, mais si c'est bon, c'est beau, c'est comme n'importe quel coucher de soleil. C'est la beauté qui fait la chose.
C'était l'aventure, à la mise en onde, Jean-Sébastien Laliberté, Robert Blondin ici, à la semaine prochaine.